Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons passer à la lecture des textes en vue de la prédication. Donc le premier texte, comme vous l'avez compris, ce sera le psaume numéro 8. Donc on va lire le psaume numéro 8 en entier. Ensuite, on aura deux lectures complémentaires, une en Genèse et puis une en Matthieu. Psaume 8, verset 1. Au chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et donc une première lecture complémentaire dans Genèse au chapitre 1, ce sera les versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et puis donc encore une deuxième lecture complémentaire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. Matthieu chapitre 21 et ce sera les versets 12 à 17. Matthieu chapitre 21, les versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit : Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.
Dieu est majestueux. C'est un bon roi. Son règne établit l'ordre, protège les plus vulnérables et donne la vie à ses sujets. Même pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne le reconnaissent pas, il a la bonté de leur donner la vie de les soutenir et de les préserver. Chaque jour, on estime que 383 561 enfants naissent dans le monde. Alors, c'est presque la population de Zurich. Alors, c'est comme une nouvelle Zurich dans le monde chaque année. Chaque jour. Il y a 12 jours, ma femme m'a appelé pour m'informer qu'elle était enceinte des jumeaux. Quelle générosité! Dieu qui donne la vie, donne généreusement. Quel cadeau et quelle espérance dans une nouvelle vie. Avant la naissance de notre fille Noah, il m'arrivait d'être envahi par le cynisme et le doute. Certes, je reconnaissais la bonté de Dieu, mais quel bien Dieu accomplirait-il vraiment à travers l'humanité déchue? Dans mes moments les plus sombres, lorsque je considérais mes échecs personnels, je m'interrogeais sur le bien qu'il pouvait accomplir à travers moi. Mais lorsque nous avons accueilli une nouvelle vie dans le monde, mon cœur s'est rempli d'espoir et de joie. Je me suis surpris à regarder avec anticipation l'avenir de notre famille. Bien sûr, mon espoir ne repose pas, en fin de compte, sur mes enfants ou sur ma performance en tant que père, mais il repose sur le donneur de la vie qui les a confiés à mes soins. Regardez avec moi le psaume 8 dans vos Bibles. Considérez le livre des psaumes comme une galerie d'art. Considérez chaque psaume comme une peinture différente, illustrant une scène différente. Nous avons déjà examiné les psaumes 1 et 2. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur des portraits, chacun d'entre eux représentant la même personne, Jésus-Christ, dans un cadre différent, remplissant un rôle différent. Dans le psaume 1, nous avons vu le Christ incorruptible, méditant toujours la loi de son Père. Dans le psaume 2, nous avons vu le Christ en tant que champion terrestre du ciel, réprimant une conspiration des hommes contre la domination de son Père. Aujourd'hui, nous laissons de côté quelques tableaux avant d'arriver au portrait suivant, le psaume 8. Nous y verrons le portrait d'un homme établissant l'ordre dans la création, dans une scène où la vie l'emporte sur la mort, apportant sur terre la gloire de l'Éternel. Je le répète, nous verrons le portrait d'un homme établissant l'ordre dans la création, dans une scène où la vie l'emporte sur la mort, apportant sur terre la gloire de l'Éternel. Au verset 2 et 10, nous verrons la beauté de notre roi céleste se déployer sur la terre. Au verset 3, nous verrons Dieu qui donne la vie, contrecarrer l'ennemi qui enlève la vie. Dans le verset 4 à 9, nous verrons Dieu établir l'ordre sur la terre par le règne d'un fils de l'homme. Dans le verset 2 et 10 qui forme le cœur de ce psaume, nous voyons la même phrase répétée dans les deux versets. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pourquoi cette répétition? Pourquoi dire deux fois la même chose? Une fois n'aurait-elle pas suffi? À quoi cela sert-il d'écrire deux fois la même chose? Eh bien, la répétition dans la Bible sert à mettre l'accent, mais aussi à diviser de plus grandes portions des textes. Pensez à la façon dont, dans la littérature moderne, nous mettons en retrait la première phrase d'un paragraphe pour diviser un texte plus large et aider la lecture à suivre. À l'origine, la Bible a été écrite sans alinéa, sans paragraphe, parfois même sans espace entre les mots. Les auteurs ont donc utilisé une autre manière de découper le texte. Répéter la phrase avant et après une section est la manière la plus courante de couper un texte du reste de l'écriture et de lui donner une étiquette, un petit titre. Dans le contexte de cette galerie d'art des psaumes, de ce portrait, quel est psaume 8, considérez le verset 2 et 10 comme un beau cadre doré autour de ce portrait, avec une plaque qui donne le nom de l'œuvre d'art, Majesté. Il décrit en un mot la bonté et la valeur de notre roi céleste. L'Éternel descend du ciel sur la terre et apporte à son peuple quelque chose de transcendant, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ne provient pas de ce monde déchu. La manière dont il agit nous pousse à l'admiration. Au verset 3, nous voyons Au verset 3, nous voyons la transcendance de notre roi Dieu dans la manière surprenante dont il contrecarre son ennemi. Au verset 3, nous voyons Dieu, celui qui donne la vie, terrasser l'ennemi qui ôte la vie. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Le verset 3 décrit l'arrière-plan, le cadre, le contexte dans lequel se situe notre portrait du Fils de l'homme. Il s'agit d'une confrontation entre Dieu et un adversaire qui est nommé à la fois l'ennemi et le vindicatif. D'un côté de ce conflit, il y a Dieu qui donne la vie, ainsi qu'une vie nouvelle sous la forme de nourrissons et d'enfants. De l'autre côté, vous avez ce que je comprends comme étant le contraire, l'ennemi. Le vindicatif qui prend la vie sans respect de la justice. Mais ce que je trouve le plus étrange et le plus inattendu, c'est ceci. Pourquoi Dieu utiliserait-il des nourrissons et des enfants pour établir sa force afin d'arrêter son ennemi? Pourquoi utiliser les membres les plus faibles, les plus vulnérables de la société pour vaincre un ennemi qui s'oppose, qui tente de rivaliser avec Dieu lui-même? L'apôtre Paul nous donne une réponse dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Dieu choisit les folies du monde pour faire honte aux sages et les faibles et les faiblesses du monde pour faire honte aux forts. Il choisit délibérément des instruments faible pour accomplir ses desseins. Il le fait pour montrer clairement que c'est lui et non l'instrument qu'il a choisi, qui a accompli cette œuvre. Tout au long de la Bible, Dieu utilise régulièrement des femmes stériles pour s'assurer qu'un enfant promis naisse, afin que son plan soit accompli. Il utilise régulièrement des hommes faibles, lâches et impuissants pour accomplir son œuvre. Il est l'Éternel et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Quel espoir y a-t-il donc pour nous dans un Dieu qui utilise les faibles, les fous et les impuissants pour accomplir ses desseins? Il y a un grand espoir. Si vous vous sentez impuissant à atteindre vos objectifs à la maison, au travail ou en classe, n'espérez pas en vous-même et en votre propre et en votre agenda, mais en Dieu qui accomplit ses desseins en dépit de votre faiblesse. Peut-être êtes-vous un étudiant qui trouve que vos études ne cessent de vous prendre du temps, vous laissant avec un sentiment d'épuisement et avec peu de choses à investir dans l'Église. Peut-être avez-vous couru après le succès académique au détriment de votre âme. Si c'est le cas, n'espérez pas en vous-même et en vos rêves de réussite, mais en Dieu tout-puissant et vivant qui maîtrise l'ennemi en dépit de votre faiblesse. Peut-être êtes-vous un employé qui trouve son travail peu satisfaisant et qui remet en question la valeur de sa profession. De votre profession. Peut-être avez-vous du mal à remplir les conditions requises pour un emploi qui vous souhaitez. Pardon. Peut-être avez-vous du mal à remplir les conditions requises pour un emploi qui vous souhaiteriez avoir. Peut-être que votre recherche d'emploi est restée infructueuse. Si c'est le cas, n'espérez pas en vous-même et en votre programme, mais en Dieu tout-puissant et vivant qui maîtrise l'ennemi malgré votre faiblesse. Peut-être désirez-vous vous avoir des enfants, mais cette saison de la vie n'est pas encore arrivée ou est déjà passée. Peut-être êtes-vous un père qui lutte pour rester sensible aux besoins de son épouse et ou de ses enfants. Peut-être n'avez-vous pas abordé les questions spirituelles au sein de votre famille dans le cadre de vos activités quotidiennes. Si c'est le cas, n'espérez pas dans vos projets familiaux, mais dans le Dieu tout-puissant et vivant qui maîtrise l'ennemi en dépit de votre faiblesse. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes chrétien, quelle que soit la saison de votre vie, je vous encourage à prendre un peu de recul et à vous reposer dans la paix donnée par la certitude que Dieu contrecarre l'ennemi qui s'empare de la vie. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'êtes pas chrétien, je vous encourage à considérer votre Créateur qui vous a donné la vie, qui vous soutient et vous préserve. Quelle relation entretenez-vous Quelle relation entretenez-vous avec celui qui s'est révélé à vous dans les Écritures. Dans les versets 4 à 9, nous voyons Dieu établir l'ordre sous la terre par le règne d'un fils de l'homme. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Elle lui a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. Ces versets décrivent l'ordre dans lequel Dieu a placé ses créatures, les cieux et les êtres célestes, ou les anges, sont placés en hôte dans les versets 4 et 6. Les animaux sont placés au-dessous, au verset 8 et 9. L'homme est placé entre les deux, plus bas que les anges, mais plus haut que les animaux. Dieu donne à l'homme une position d'autorité, le couronnant roi du règne animal au verset 6 et 7. Cela reflète Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Après avoir créé l'humanité à son image, Dieu lui ordonnait de régner en tant que roi et règne sur sa création afin d'exercer l'autorité du ciel sur la terre. Ils sont censés être à la fois intendants, jardiniers et gardes-chasse. Rappelons toutefois qu'ils ont totalement échoué dans ce rôle. La gestion de la création par Adam et Ève n'a pas culminé dans la gloire, mais dans la honte. Leur règne n'a pas apporté l'ordre, mais le chaos et la rupture dans notre monde. L'ennemi, le vindicatif qui ôte la vie, n'a pas été apaisé dans la Genèse. Nous voyons la mort tout au long des généalogies de la Genèse consumer la race humaine depuis Adam au début du livre jusqu'à Joseph à la toute fin. Où est donc l'accomplissement de ce psaume? Où est cet homme qui rétablira l'ordre dans la création? Où sont les enfants et les nourrissons qui mèneront à la défaite de l'ennemi qui ôte la vie. Regardez avec moi Matthieu 21, versets 12 à 17. Alors, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. » « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Dans la recette de Matthieu sur le nettoyage du temple par le Christ, nous voyons l'accomplissement partiel du psaume 8. Ici, Jésus entre dans le temple et met fin à la manière dont les chefs religieux ont exploité les adorateurs de Dieu. Ces chefs ont transformé le système sacrificiel en un outil pour extraire la richesse du peuple et l'accumuler. Ces chefs ont profané la maison de Dieu et abusé du peuple de Dieu à leur propre fin. Le temple et toute la création elle-même étaient destinés à être une maison de prière, un lieu d'adoration et de jouissance de Dieu. Mais au lieu de faire briller la gloire de Dieu aux yeux des nations, il est honteusement utilisé à mauvais escient. Merci. Salissant le nom, la réputation et le témoignage de l'Éternel, Jésus fait face à cette situation en montrant son véritable but. Il est venu rétablir le véritable culte de Dieu, rétablir l'ordre, rétablir la communion avec Dieu. Il entre dans le rôle qu'Adam était censé remplir, le rôle d'un intendant chargé de guider les créatures de Dieu vers leur but, vers la glorification de Dieu, là où Adam a échoué. Le Christ réussit. Il corrige les erreurs des descendants d'Adam. Il guérit les aveugles et les boiteux. Il redresse ce qui a été tordu et brisé par le péché. Il redresse ce qui est faux. D'une main forte et corrective, il cherche le bien des créatures de Dieu. Nous voyons deux types de réponses de la part de deux groupes différents. Les enfants réagissent avec une humble admiration, tandis que les chefs des prêtres réagissent avec une opposition orgueilleuse. D'un côté, les enfants répondent par l'admiration et la louange. De l'autre côté, les chefs religieux de Jérusalem sont indignés. Ces chefs s'opposent au Christ et la et le contrarions plutôt que de se repentir de leurs péchés, plutôt que de reconnaître leur besoin de changer de cœur et la réforme religieuse apportée par le Christ. Les chefs religieux se retournent contre le Christ, le considérant comme un rival à abattre, comme l'ennemi. Le vindicatif du psaume 8, ils complotent et cherchent à le faire mourir. Quelle est votre réponse à Jésus-Christ lorsque vous voyez sa bonté, le changement et la restauration qu'il apporte? Comment réagissez-vous? Réagissez-vous en l'adorant humblement, en accueillant? Invitez-vous ces réformes dans votre vie? Avez-vous soumis chaque domaine de votre vie à la domination du roi Jésus? Ou bien, dans votre orgueil, vous opposez-vous à son œuvre? Unissons-nous pour louer notre roi, le Fils de l'homme, le véritable et meilleur Adam, qui a restauré et restaurera. Louons l'Éternel au meilleur de notre faiblesse et de notre vulnérabilité. C'est de la bouche de ces enfants faibles et vulnérables qu'il choisit de faire surgir la force et de vaincre l'ennemi en rétablissant l'ordre dans son monde par son Fils. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.